Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seconde partie, pourrait-on dire, de cette méditation cette récollection sur les vacances. Nous l'avons annoncé, vacances en famille, pour que votre famille soit un foyer de lumière et de joie. Et nous ne quitterons pas ce qui est le fil conducteur de ces deux méditations sur les vacances, n'est-ce pas, l'esprit de pénitence, sans quoi rien n'est possible. Sans quoi, je vais le redire de 3-5 façons différentes, chacun dans son coin, c'est invivable. Alors que l'objectif est de resserrer les liens et que ça devienne un objectif prioritaire pour vous pendant ces semaines, privilégié, où vous disposez de beaucoup plus de temps. Cela s'appuie inéluctablement sur la vertu de pénitence, qui permet de tuer son égoïsme naturel. Chacun est égoïste. Le point de départ, comme toujours, on pourrait remonter quel que fut le sujet abordé. La création de l'homme par Dieu, à son image, à sa ressemblance, et toute la spiritualité et toute l'anthropologie chrétienne sont profondément marquées par cette origine. Tant et si bien que notre but dans ce monde est de devenir de plus en plus ressemblant à Dieu. Plus concrètement encore, au Christ, bien sûr. Notre frère aîné, modèle parfait, en toutes choses et pour tout, pour tous les hommes, toutes les femmes. Et là, nous centrons cette méditation sur un aspect, c'est le cas de dire, crucial, central du mystère de l'incarnation, la famille. Je dois vous avouer que le point du catéchisme que je vais lire maintenant, 1655, me plaît beaucoup. Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la Sainte Famille de Joseph et de Marie. L'Église n'est autre que la famille de Dieu. Dès ses origines, voilà, le noyau de l'Église était souvent constitué par ceux qui, avec toute leur maison, étaient devenus croyants. Lorsqu'ils se convertissaient, ils désiraient aussi que toute leur maison soit sauvée. Bien sûr. Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie chrétienne dans un monde incroyant. C'est une actualité étonnante, hein, à la lettre. C'est pourquoi le catéchisme est rédigé comme cela. Vous avez remarqué, j'essaie de le souligner en le lisant, que le tout début de ce point, 1655, dit « Le Christ a voulu naître dans une famille ». C'est un choix divin qui doit nous faire réfléchir. Et à un moment donné de notre vie, nous devons comprendre plus profondément peut-être ce que cela implique, ce que cela a comme possibilité de salut pour tous les membres d'une famille. Pourquoi, Seigneur, as-tu voulu naître dans une famille? C'est un aspect, on peut dire tout de suite, un aspect essentiel de notre rédemption. Pour notre salut, la famille est nécessaire. C'est pourquoi ces aberrations qui sont en passe d'être légalisées, votées, etc., c'est de la folie furieuse. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Une œuvre de destruction qui va contre le plan de Dieu, bien sûr. Le texte que nous venons de lire souligne fortement le lien entre famille et vie chrétienne. Autrement dit, il nous dit que la vie familiale fait partie de notre foi. Nous dit que ce n'est pas uniquement une réalité intéressante, la famille, ou même utile, sans plus, ce qui est le cas. Mais c'est le cas pour le rôle psychologique. On sait les dégâts d'une famille qui n'est pas constituée par un homme, une femme et des enfants. On sait. Le rôle pour l'éducation psychologique aussi, pour l'équilibre, on sait. Ces fractures, ces blessures, etc., incroyables. Donc, on sait que c'est pratique, bien sûr, aussi pour l'existence d'un bon climat qui peut beaucoup aider les membres de la famille. D'accord, ce sont des raisons, mais ce n'est pas la raison. C'est beaucoup plus que cela. Ce lien entre la famille et la vie chrétienne. Parce que c'est un élément clé dans le plan de Dieu. Et très précisément, pour les grandes vacances et pour les autres congés pendant l'année, eh bien, on dirait que cela, il faut en profiter de ces temps de grâce. Parce que la foi se transmet aux enfants d'abord et surtout à la maison. Et là, je lis le point suivant, 1656 du Catéchisme de l'Église catholique. De nos jours, dans un monde souvent étrangers et même hostiles à la foi, les familles croyantes sont de première importance comme foyer de foi vivante et rayonnante. C'est pour cela que le deuxième concile du Vatican appelle la famille avec une vieille expression « Ecclesia domestica ». C'est au sein de la famille que les parents sont, par la parole et par l'exemple, pour leurs enfants, les premiers héros de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Donc, ce qui est souligné de toute évidence par le catéchisme, c'est l'accent sur la responsabilité première des parents. Mais pas que les parents, parce que la famille est directement concernée. Tout le monde dans la famille est concerné. Et je pense que dans une bonne éducation, les parents doivent aussi réfléchir pour voir comment impliquer les frères et les sœurs les plus âgés. Et que tous dans une famille soient bien conscients de leurs responsabilités devant Dieu. Pensez-y, comment ça se passe dans votre famille, les aînés par rapport aux petits? Au point de, et on le voit dans le catéchisme et dans notre foi, que l'Église se présente ainsi comme un maillage de famille chrétienne, où tous les éléments, tous les membres de la famille sont impliqués. Bien. Des vacances en famille. Comment faire œuvre utile pendant ce temps de grâce? Quelles sont les qualités pour que votre foyer soit un foyer plein de joie et de paix et de lumière? Quelles sont les qualités donc nécessaires pour réussir cette mission? Et là, cette expression que nous utilisons était si chère à Saint José Maria, qui est tellement lumineuse, c'est le cas de le dire. Un foyer chrétien doit être plein de joie et de lumière comme qualité première. Parce que telles étaient les qualités du foyer de la Sainte Famille de Nazareth, que toute famille doit chercher à imiter le plus possible. Tous les jours à la messe, nous rappelons les mots du Christ de l'évangile de Saint Jean 14, 27, dans son évangile. Je vous laisse la paix. Très important. Et là, nous entrons dans une petite phase de la méditation qui demandait au Seigneur des Lumières pour comprendre, moi aussi je demande, pour comprendre plus profondément l'importance de cette paix et ce qui est requis pour que la paix règne dans un foyer. Sans la paix, ça marche pas. Rien ne marche, vous le savez. Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Si vous êtes avec moi, ça va. Et là, dans ce verset 27 du chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, nous avons la trois idées que je commente en trois fois une minute. Les trois éléments qui sont dedans. Le premier, c'est important, très important à digérer et à assimiler. Parce qu'il est, cette évocation, n'est-ce pas, de la paix, mais justement une paix qui se rapporte à la joie et à la lumière. Donc c'est quelque chose de très riche. Premier élément, le Seigneur nous donne la paix. Autrement dit, la paix est avant tout un don de Dieu. Tant qu'on veut prétendre résoudre l'Iran, les États-Unis, la Corée, Israël, Palestine, c'est un don de Dieu. On ne peut pas oublier que c'est un don. Et c'est pourquoi donc nous devons le demander, ce don. Et c'est pourquoi l'Église prie à cette intention peut-être par-dessus toutes les autres, sûrement même, pour la paix, tous les jours. Et nous aussi, de bons enfants de l'Église, nous prions pour la paix. Et surtout lorsque les choses, en famille, on n'oublie pas, se compliquent. Les brouilles, les partages, les histoires, il y a des événements, des circonstances qui sont une source de panique, de tension, d'hostilité, de guerre. Il faut demander le don de la paix. Deuxième élément, le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix. C'est pas n'importe laquelle, c'est la sienne, c'est la vraie. Parce que la paix humaine, même sincère, n'en est pas moins fragile et limitée. Assez souvent, elle ne jaillit pas d'un cœur vraiment uni à Dieu. C'est-à-dire, elle n'est pas la manifestation d'une charité authentique. Cette paix-là, une fragilité extraordinaire. Cette paix-là qui consiste bien souvent au fait qu'il n'y ait pas la guerre. On bouge pas. Et statu quo, attention. C'est pas la paix du Christ, ça. Fruit de la charité, qui est une puissance dévastatrice. Troisième élément, le Christ dit, je vous la donne, ma paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. La paix du monde a beaucoup de limites, toujours très limitées, parce qu'elle est acquise ou obtenue de façon intéressée, ou parce que c'est un équilibre de force qui reste là, endormi, mais active là-dessous. C'est un peu, si je peux dire, comme la guerre froide. En préparant la méditation, j'ai compris un petit peu une chose évidente. Hein? Cette guerre froide qui est un compromis, mais c'est un compromis qui risque d'éclater à tout moment. Dès que la moindre difficulté se présente, ben c'est carrément la guerre chaude. Soyons un peu plus concrets, parce que le temps avance, en citant un autre passage de l'Évangile, toujours la référence qui nous éclaire beaucoup, Matthieu 10, 12, 13. Des conseils que le Christ donne pour la première mission apostolique des apôtres, et qui dit, rendez visite aux familles. Intéressant. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent, la famille qui l'habite. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. C'est drôle que le Christ parle de la prédication, de l'évangélisation, de l'apostolat, en lien direct avec la famille. Cherchez les familles qui ont la paix, parce que la paix naît d'abord au sein d'une famille. C'est là qu'elle s'installe dans les cœurs. Et lorsqu'elle est installée dans les cœurs, cette famille, c'est le paradis sur terre. C'est pourquoi il faut œuvrer pour faire en sorte que moi et les personnes qui dépendent de moi, qui sont en lien avec moi, dans ma famille d'abord, eh bien, nous soyons tous des artisans de paix. Surtout et d'abord dans la vie familiale. Beau chantier pour les vacances, n'est-ce pas ? Pourquoi les livres du Nouveau Testament parlent-ils tellement de la charité, de la paix, de la bonne entente? Eh bien, tout simplement parce que le péché a introduit des facteurs de division dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur que ça se passe. Et on n'oublie pas du tout l'étymologie qu'on répète une fois sur deux, du mot diabolos, le diable qui divise, celui qui sépare Dieu, l'homme et tout ce qui bouge. C'est la tâche du démon. Et dans une famille, s'il introduit la division, c'est gagné. Lorsqu'on vit sous le même toit, eh bien, il y a des petites aspérités du caractère qui affleurent facilement. Et donc, il faut demander pénitence, mortification. Il faut s'appliquer et demander au Seigneur d'avoir un cœur compatissant et toujours faire confiance aux autres et les écouter et passer par-dessus les misères des autres avec délicatesse, avec élégance, malgré leurs faiblesses. Nous pouvons avancer, si vous voulez bien, vers la fin, avec deux idées qui sont très concrètes et qui sont fort utiles pour l'époque de l'année que nous sommes en train de préparer par ces deux méditations, donc pour les vacances de l'été, qui sont valides pour toujours, mais enfin, elles s'inscrivent dans le droit fil d'une des béatitudes. Hein. Vous l'avez compris, dans une famille, il faut chercher d'abord et avant tout à être des artisans de paix. Heureux les artisans de paix. En évitant, pour commencer, tout ce qui peut troubler cette paix. Tout en sachant, parce qu'on est réaliste, qu'il y aura toujours des conflits, mais que ce n'est pas la situation habituelle. Donc, c'est nous qui pouvons créer, alimenter, exacerber. Commence par toi, mon cher frère, pour être un artisan de paix, toi. Et de bien t'y prendre pour être un artisan de paix à la maison, toi. Aide ton épouse ensuite, aide les enfants ensuite. Parce que si tu fais preuve de mauvais esprit, parce que ta vertu de charité n'est pas très développée, eh bien, pose-toi la question, qui est toujours intéressante, qu'est-ce qui pourrait troubler la paix? Si je suis uni au Seigneur, qu'est-ce qui pourrait perturber ma paix? Les deux questions précises et concrètes. La première, une sorte de titre, l'égoïsme. C'est deux éléments négatifs sur lesquels il faut s'appliquer, quoi, vraiment. Et tu verras comment tu seras un artisan de paix, toi. Et un bon exemple pour tous à la maison. L'égoïsme qui nous centre sur nous-mêmes fait tout ramener à nous. Nous avons besoin de la pénitence qui va nous libérer de ce premier élément négatif et du second tout à l'heure, dans 3 minutes. Mais d'abord de celui-là. Mon égoïsme, lorsque je ramène tout à moi, les choses qui sont bonnes ou moins bonnes en raison, ou en fonction, pardon, de mes préférences. Ah oui, mes préférences à moi. On a parlé récemment dans une autre récollection, et on peut en parler à chaque récollection. On m'a dit, cela se remarque, l'attitude que nous avons, lorsqu'il s'agit de faire des choix. Il faudra toujours faire des choix. Face au choix, oh là là, c'est très révélateur, l'époux, l'épouse, les enfants. Et chacun veut occuper son territoire. Les vacances, puisqu'on en parle, les grandes ou les courtes, les week-ends, les émissions de télévision, les sorties, les promenades. On va se balader, on va à la piscine, on va à la mer. On sort le matin, on sort l'après-midi, on se lève, je sais pas quoi, on va aussi, je sais pas. Les sujets des conversations. On parle de quoi à la maison habituellement? Est-ce que j'écoute les autres ou est-ce que c'est toujours papa qui la ramène et puis et tout le monde n'en peut plus, quoi? C'est ce qui arrive. Lorsque le papa déborde un peu trop souvent, il est long, il est fastidieux, personne ne le supporte, en commençant par l'épouse. Est-ce que vous êtes naïf au point de croire que lorsque vous parlez pendant 3 quarts d'heure, les gens écoutent avec passion? Parce que si vous en êtes là, les gars, Demandez à votre épouse, écoute, allez, dis-moi simplement. Hein. Non, non, il n'y aura pas de gifle, il n'y aura pas de punition, il n'y aura rien. Dis-moi simplement, avec beaucoup d'amour. Et l'épouse dira, t'es insupportable. Souvent, lorsque tu abordes ça, mais tu ne peux pas imaginer. Enregistre-toi. Alors, oh non, mais t'exagères. Demande aux enfants. Allez, demande aux enfants. Est-ce qu'ils ont la simplicité de te dire ce qu'ils pensent de tes discours, de tes explications, même apologétiques ou catéchétiques, même spirituelles, bibliques? L'écoute, c'est dur, hein, l'esprit de pénitence, ah oui. Les reproches, évidemment, artisan de paix, si je pense aux reproches que je fais aux autres, et je découvrirai que je fais toujours, ou, enfin tout au moins souvent, preuve d'égoïsme. Souvent. Des reproches implicites, des reproches ouverts, là, carrément, sur la vie familiale, sur des choses qu'il faut faire, sur les charges assumées qu'on n'assume pas, qui ne sont jamais assumées. Et là, le ton haut, et bon, monte un petit peu. Il est rare, vous serez d'accord, qu'on reproche à l'autre de ne s'être pas reposé comme il faut. Vous dites souvent à votre épouse, écoute, t'en fais trop, repose-toi. C'est moi qui prends. Va avec des copines. Allez, va t'éclater un petit peu. Fais de les folles. Oui, l'égoïsme, hein. Et évidemment, ces reproches, enfin, tout ce qu'on est en train de dire, qui n'est pas positif, eh bien, crée des tensions, trouble la paix. Il faut pas être étonné que ça soit tendu. Quand voulez-vous vous reposer pendant les vacances d'été, si un jour et un autre, on est dans la, je sais pas quoi, et les reproches, et t'as fait, t'as pas fait, je sais pas quoi, et ça file très vite, et vous arriverez à la fin des vacances plus fatigué que maintenant. Promis, juré. Première résolution peut-être, donc, pensez d'abord aux autres, à leur bonheur, à leur plaisir. Cela demande, exige un esprit de pénitence, mais bien sûr! Mais sans esprit de pénitence, vous allez terminer plus fatigué jour après jour que les vacances vont avancer. Second commentaire, avons-nous dit, second élément négatif, les ressentiments, on ne va pas faire une longue liste, que deux points, hein. Le premier, l'égoïsme, de tout ramener à moi. Le deuxième, les ressentiments, c'est-à-dire la difficulté à vraiment pardonner. Et là, je pense qu'il faut dire une chose que nous avons dit dans cette année, évidemment, scolaire, plusieurs fois, parce que la nature humaine est ce qu'elle est, et nous avons des points sur lesquels il faut revenir tout le temps. Mais je dis, c'est inévitable que certains ratés se produisent parce que nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Donc, il y a des ratés tout le temps. En plus, on ajoute à cela que nous passons tous par des états d'âme et des mauvaises périodes. Si jamais on ajoute à cela, troisième élément, bon, ça devient un corset petit à petit, qu'il y a des oublis, il y a des retards, il y a des énervements, même carrément, il y a certaines fautes qui sont commises. Non, non, c'est pas une vue de l'esprit. Objectivement, il y a une faute. Donc, on brasse tout ça, on mixe ça. Et devant tout cela, eh bien, nous sommes tentés d'en vouloir à l'autre. De le tenir pour responsable. L'ambiance de la maison n'est pas bonne, c'est ta faute à toi, c'est parti. Et on ouvre le fameux cahier de doléances. On se rappelle, l'épouse est plus douée pour ça que le mari, se rappelant des choses d'il y a une semaine, d'il y a 15 jours, d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois, de quand on s'est marié, de quand on était fiancé. Donc le cahier, il peut être long là aussi. Parce que le cahier est scrupuleusement tenu. Pas volontairement, mais scrupuleusement tenu. Donc on peut sortir des choses à point nommé. Alors, je dis, face à ça, la conclusion de ces 3 dernières minutes, qu'est-ce qui trouble la paix dans le foyer? Est-ce que c'est les défauts? Est-ce que c'est les ratés? Est-ce que c'est les erreurs? Est-ce que c'est la faute? Je recommence. Eh bien, non. Ce qui empoisonne la paix dans le foyer, c'est plutôt mon attitude, ou l'attitude de l'autre, ou des autres. Lorsqu'on a effectivement un cœur étriqué, eh bien, un cœur qui est incapable de nourrir les mêmes sentiments du Christ. Essayez, si on nourrit les mêmes sentiments que le Christ, ben, on ne s'attarde pas à ses erreurs, à ses fautes, à ses ratés. On passe, on pardonne. Sinon, les ressentiments fameux. Et évidemment, si on n'est pas prêt à pardonner, eh bien, on a besoin de compréhension. Oui, la compréhension est source de paix, oui. Le pardon, évidemment, la grande source de paix. Et le pardon doit être vraiment donné, pas arraché au forceps, hein. Donné. Cela demande une dose importante d'esprit de pénitence, de sacrifice et de mortification. C'était le thème de nos deux méditations. C'est le sel de l'été, de la réussite de l'été, du bonheur de l'été. D'accepter que si moi, je lutte contre moi-même, je lutte contre mes critiques, mes jugements, mais je râle trop facilement, je me plains trop facilement, si je lutte contre ça, eh bien, l'été va être divin. Là, nous vivrons de la charité du Christ, nous vivrons de la paix que le Christ nous donne, et nous implorons du Seigneur de nous donner la paix, sa paix. Et là, nous serons proposés, autrement dit, vraiment, de faire passer de bonnes vacances aux autres. Parce que nous serons en train d'irradier cette paix et cette lumière et cette joie. Parce que nous sommes en train de vivre près du Christ. Et le Christ, on ne peut pas le séparer de la croix. Du don de soi. Du renoncement à soi. Oui, il faut suivre les conseils du Christ, hein. Chercher à purifier son cœur par la pénitence pour pouvoir voir Dieu. Les cœurs purs voient Dieu. Et on pourrait passer en revue toutes les béatitudes maintenant pour dire, si je fournis l'effort pour vivre les béatitudes, bien sûr que tout devient très lumineux, même très facile, tellement plaisant, tellement agréable. Qu'est-ce qu'on désire de plus grand que d'avoir la paix dans son foyer, la joie dans son foyer, et de la répandre autour de soi, et de l'accueillir? Parce qu'elle nous est donnée aussi par les autres, cette paix du Christ. Vous rendez-vous compte? C'est grandiose. Grandiose. Et par là, voir Dieu, pour ainsi dire, incarné chez les autres, leur donner la paix, recevoir la paix, et être toujours près de la Vierge Marie, la reine de la paix, parce que c'est elle qui va assurer la bonne ambiance à la maison. La maman, c'est souvent la maman. Et c'est cette maman qui nous aidera à chasser tout égoïsme de notre tête et de notre cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.